Radio Okapi. Le journal Belinda Bossouma.
À la une, ce plaidoyer pour la tenue dans le délai constitutionnel des élections crédibles, transparentes et inclusives. C'est ce qui justifie la rencontre hier à Kinshasa entre les commissions justice et paix de la CENCO et de l'ECC avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso. À Uvira, c'est la rencontre hier soir entre les délégations du Burundi et de la RDC, les Burundais conduits par le gouverneur et maire de Bujumbura et les Congolais par le gouverneur du Sud Kivu, au menu de leurs échanges, notamment des questions sur la sécurité au niveau des frontières, le Covid-19 et le commerce transfrontalier. Et puis, l'invité de ce midi, Gabriel Mokango, directeur technique de la régie des voies fluviales RVF. Avec lui, nous bouclons notre dossier thématique sur les difficultés du transport fluvial et la Custron RDC. Il plaide d'ailleurs pour l'instauration d'un fonds d'entretien des voies navigables pour la RVF et pour que la RVF ait les moyens de sa politique. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par ce plaidoyer pour la tenue dans le délai constitutionnel des élections crédibles, transparentes et inclusives. Les commissions justice et paix de la CENCO et de l'ECC ont rencontré hier le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiapwanga, le révérend Maurice Mondengo de l'Église du Christ au Congo et Monseigneur Donatien Cholet de la CENCO ont encouragé Christophe Mboso à tout mettre en œuvre pour que l'Assemblée nationale réponde aux contraintes légales, budgétaires et de volonté politique pour la tenue dans le délai des élections inclusives et crédibles pour la CENCO et l'ECC qui s'étaient opposés à l'enterrement de Denis Kadima à la tête de la CENI. Cette démarche ne consiste pas à donner crédit à tous ceux qui pensent amener le pays dans les difficultés. Monseigneur de l'Ancien Cholet est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Nos deux commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement, contraintes relatives au cadre juridique, au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique, et le Parlement se retrouve partout. Et Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup du processus électoral. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien. Nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction.
Un autre plaidoyer, cette fois au Sénat congolais, pour la prise en compte de certaines lois, notamment la loi sur l'accès aux informations d'intérêt public, afin de permettre à la population de bien suivre la gouvernance du pays. La Fédération internationale des droits humains, reçue hier par le président du Sénat, Modeste Bahati, déplore que toutes les lois ayant trait à la protection des droits humains souffrent de manque d'intérêt au niveau du Parlement. C'est le cas de la loi relative à la protection des peuples autochtones, celle sur les manifestations publiques, ainsi que la loi d'accès à la justice par les victimes de violences sexuelles. À la sortie de cet entretien, le secrétaire général de la FIDH s'est dit satisfait d'apprendre que certaines des lois évoquées sont déjà programmées pour la session parlementaire qui s'ouvre dans quelques jours. Drissa Traoré, secrétaire général de la FIDH, au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons eu une oreille attentive et nous avons trouvé un président qui est prêt à nous accompagner, surtout qui nous a affirmé clairement son engagement pour faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés et que l'ensemble des règles, des textes qui puissent être adoptés puissent le faire cela dans les meilleurs délais et nous nous en félicitons. On peut dire que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'avancées dans la lutte contre l'impunité. Nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'avancées ont pu avoir lieu, mais également il y a beaucoup également de procédures qu'il faut pouvoir engager et aller jusqu'au bout.
Par ailleurs, situation difficile pour les assemblées et les gouvernements provinciaux, faute de rétrocession par le gouvernement central depuis plusieurs mois, les différents exécutifs provinciaux sont impayés depuis plus de 30 mois. Après les députés provinciaux, les ministres des gouvernements provinciaux ont à cet effet amorcé un plaidoyer depuis mardi au niveau du gouvernement et du Sénat, où ils sollicitent l'implication de Modeste Bahati pour décanter cette situation qui les paupérise de plus en plus, disent-ils. Je vous le disais en titre, nous sommes au sud Kivu avec cette rencontre hier soir dans la ville d'Uvira entre la délégation des gouverneurs de 6 provinces frontalières du Burundi avec la RDC et la délégation des membres du Conseil provincial de sécurité du sud Kivu. La délégation burundaise est conduite par Jimmy Atungimana, gouverneur et maire de la ville province de Bujumbura. Et côté congolais, à la tête, le gouverneur du sud Kivu, Théo Ngwabidje. Au menu des échanges, des questions d'intérêt commun portant essentiellement sur la sécurité au niveau des frontières, le Covid-19, le commerce transfrontalier, le séjour des Congolais vivant au Burundi et des Burundais se trouvant sur le sol congolais au sud Kivu, le compte-rendu de Fiston Ngoma Mayabala.
Les deux délégations burundaises et congolaises se sont engagées de travailler main dans la main pour la paix et la sécurité des pays des Grands Lacs, en facilitant la liberté des commerces transfrontaliers entre la RDC et le Burundi. Le test de COVID-19 se paye encore à $15 américains pour une seule entrée au Burundi, alors que la RDC fait payer ce même test à $5 pour 14 jours à l'entrée. Dans les deux parties, les opérateurs économiques affirment que les taxes prélevées sur le petit commerçant transfrontalier ne respectent pas les nomenclatures des conventions signées au niveau de la CPGL et des COMESA. On écoute le gouverneur et maire de la ville province de Bujumbura, Jimmy Atungimana.
Avec le commerce transfrontalier exercé par les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens, on s'est convenu que la question sera étudiée et réglée avec la grande satisfaction des délégations transfrontalières. Et nous allons mener la question de Covid à l'hiérarchie pour qu'une harmonisation en rapport avec les vrais relatifs au test de Covid soit effectivement uniforme.
Concernant la sécurité, les deux parties ont résolu de mutualiser les efforts de sécurité au niveau des deux frontières. D'après le gouverneur de la province du Sud Kivu, ces questions de sécurité devront être approfondies à un haut niveau national par les parties prenantes. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, le gouverneur a échangé mercredi avec les autorités ougandaises de 3 districts frontaliers à Mahagi Centre, 180 km au nord de Bunia. Au cours de cette rencontre bilatérale, ils ont fait l'état des lieux de la situation sécuritaire, économique et diplomatique entre les entités voisines des deux pays. Selon l'exécutif provincial de l'Ituri, l'objectif est de renforcer la coopération pour la promotion de la paix en Ituri et des échanges commerciaux entre les deux pays. Isaac Remoyope, reportage.
La délégation congolaise était conduite par le gouverneur de l'Ituri qui était accompagné des membres du comité de sécurité de la province. La partie ougandaise était représentée par les chefs des districts de Zombo, Nebi et Pakwach et leurs membres de l'assemblée. Parmi les questions clés qui ont été abordées dans cette rencontre bilatérale, il y a les problèmes de circulation d'armes qui sont utilisés par les groupes armés actifs en Ituri. Et en économie, les deux parties ont échangé sur les tracasseries et la fraude qui affectent l'économie des deux pays. Les problèmes de délimitation des frontières étaient également au centre des discussions. Au cours de cette rencontre, les autorités des deux pays se sont engagées à renforcer leur collaboration pour résoudre ces questions. Le gouverneur Johnny Kachama.
La rencontre de ce jour nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des dites coopérations entre nos deux entités.
Selon le député national Daniel Ouma qui a participé à cette rencontre, ce cadre est indispensable pour contribuer au rétablissement de la paix en Ituri et le développement de cette province.
Sur le plan sécuritaire, si les résolutions prises lors de ces assises sont appliquées, l'Ituri va souffler un peu parce que le mouvement d'armes seront contrôlés et ça va sensiblement réduire la capacité de nuisance des Codeco sur nos populations.
Bunia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Kwilu, le phénomène Kulunaba sont plein dans la ville de Kikwit ces derniers temps. Selon le commandant urbain de la police ville de Kikwit, il s'agit des criminels jadis transférés à Kanyamakasese et qui sont de retour à Kikwit. Le colonel Odon Kachala explique la situation au téléphone de Irène Boma.
tous ces équipistes qui étaient envoyés à la Niamara CC, les parents se sont arrangés pour les rapatrier ici à Kikuit. À leur arrivée, voilà un peu que ceux qui entraînent encore qu'il y ait la montée de la criminalité, qui sont en train de commettre des bavures, de piller, de tirer, de voler. Il y a un 50-100 qui était aussi à la Niamara CC, que j'ai arrêté le 1er janvier ici. Il est en prison. Je l'ai arrêté en lui posant la question. C'est lui qui me dira comment est-ce qu'on leur a envoyé l'argent par ses parents, comment il a pris la moto de la Niamara CC jusqu'à Mboujimaï. Les parents lui ont envoyé l'argent des mouvements ici à Tikapa, Tikapa, jusqu'ici. Imaginez-vous, on ne doit pas vouloir au même moment le froid et le chaud. Les mêmes parents qui crient l'insécurité sont les mêmes qui font venir les enfants. Ils sont nombreux parce que tous ces gens ont regagné ici. Je demande aux parents de se liguer et de travailler avec la police, main dans la main, pour juguler l'insécurité au lieu de favoriser en cachant les enfants. Ils sont venus là maintenant, ils se croient maintenant intouchables.
Le plan de travail et le budget annuel 2022 du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt, Pabea Cobalt, ont été validés hier au cours d'une rencontre du comité de pilotage de ce projet sous la direction du ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Lancé en janvier 2022, ce projet financé par le groupe de la Banque africaine de développement BAD a permis, après une mission effectuée récemment sur terrain, d'identifier dans les provinces du Lualaba et de Haut-Katanga environ 14 850 enfants, filles et garçons et leurs parents, ainsi que 6250 jeunes, tous impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt. Maître Alice Mirimo, coordonnatrice de l'unité de coordination du projet Pabea Cobalt, explique au micro de Jean-Marc Matouaki.
Les perspectives d'avenir sont bonnes. Déjà cette année, nous avons prévu la construction de 40 infrastructures sociales. Il y a 20 centres de rattrapage scolaire, 10 centres de santé et 10 écoles. Mais il y aura aussi deux grands centres de formation professionnelle où nous allons avoir des modules modernes par rapport aux métiers du secteur agricole et du secteur minier. Il y aura aussi deux grands centres en entrepreneuriat, en agro-business. Un à Kolwezi et l'autre à Lubumbashi. En fait, l'objectif, c'est vraiment offrir à nos jeunes, à notre population, d'autres opportunités d'emploi, d'autres opportunités d'affaires aussi. Ce projet vise comme objectif principal de sortir tous les enfants de la chaîne d'approvisionnement du cobalt pour que notre cobalt garde sa valeur et que cette chaîne soit une chaîne responsable avec zéro enfant.
Province de Maniema, un contrat gagnant-gagnant pour les travaux publics a été signé mardi entre le gouverneur intérimaire et la société portugaise Future Motion. Le but est d'asphalter 138 km de route Kindu-Katopa à la frontière entre la province du Maniema et celle de Sankuru, ainsi que la construction d'un port sur la rivière Lomami à Katopa. Ces travaux, qui ont reçu le financement de la Banque africaine de développement, débutent d'ici 40 jours, a fait savoir la société Future Motion. Des précisions avec Florence Kizalunga.
Outre la construction de ces ports, ces contrats prévoient aussi la construction de plusieurs édifices publics, dont la résidence du gouverneur et son vice, les résidences des membres du gouvernement provincial et celles du bureau de l'Assemblée provinciale. D'après le représentant de l'entreprise Future Motion, la réalisation de ces contrats permettra le désenclavement de la province du Maniema, car les marchandises quitteront Kinshasa sur le fleuve Congo, puis sur la rivière Lomami, d'où sera érigé le port. René Calon.
Nous allons construire la route de Kindu jusqu'à Katopa. C'est une route de plus ou moins 130 km. Et nous allons construire un port pour permettre le déchargement des marchandises précisément à Katopa. Nous allons éclairer plus ou moins 5 km donc entre Kindu et là où sera installé le péage.
Le gouverneur intérimaire parle d'une grande contribution dans le cadre du développement de sa province. Afan Idrissa.
Le port de Katopa va nous ouvrir la voie directement vers la capitale au lieu de souffrir en passant par Kisangani et consorts, mais les bateaux vont directement quitter Kinshasa jusqu'à Katopa et nos véhicules vont nous ravitailler en marchandises.
Ce contrat de plus de 212 millions de dollars a une durée de 2 ans et demi. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Vous savez, le pape François est attendu en RDC au début du mois de juillet prochain. Le souverain pontife va visiter les villes de Kinshasa et Goma. À Goma, cependant, des travaux de construction de la cathédrale Mama wa Amani, Notre-Dame de la Paix, du diocèse de Goma, ont pris du retard, de sorte que nombreux sont maintenant des fidèles qui se demandent quand est-ce que leur cathédrale pourra finalement les accueillir. Beaucoup attendaient le pape pour l'inaugurer à cette occasion. Le portrait d'une bâtisse qui suscite de la curiosité chez les Goma. Avec vous, Jules Ngalawamona.
C'est en 2014 que la première pierre de construction de la cathédrale de Goma fut posée. Les initiateurs du projet avaient prévu son inauguration en 2018. Mais aujourd'hui, devant la gigantesque bâtisse, toujours en chantier, une fidèle se désole. Est-ce que ça va se terminer un jour? La nouvelle cathédrale de Goma en construction est une œuvre complexe, bien que suscitant de l'admiration. Ses passants témoignent à leur tour.
Apparemment, il y a aussi des caves en dessous de la cathédrale.
Ça paraît beau pendant que c'est encore un chantier. Et je suppose que lorsqu'ils vont finir, ça sera meilleur que ce que nous voyons aujourd'hui.
La cathédrale de Goma en construction doit remplacer celle engloutie par la lave volcanique de Nyiragongo en 2001. Selon certaines indiscrétions, son coût total serait de 5 millions de dollars américains, contribution des donateurs privés essentiellement. Goma, Jules Ngalawa Mona, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Nigeria avait annoncé avec soulagement une baisse constante et significative du nombre des nouveaux cas et des décès liés au coronavirus dans le pays quand il s'est retrouvé confronté à 118 nouvelles infections au Covid-19 pour la seule journée de mardi. Ces nouveaux cas ne seraient pas sans lien avec le retour des Nigérians rapatriés d'Ukraine, pays actuellement en guerre contre la Russie. Ils étaient 60 rapatriés au total et tous ont été testés positifs au coronavirus à leur arrivée au Nigeria. Pendant ce temps, au 15e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie hier, le président ukrainien a annoncé que 35 000 civils avaient pu être évacués des différentes villes assiégées mercredi via les couloirs humanitaires sur le front diplomatique. Des pourparlers entre chefs de la diplomatie ukrainien et russe doivent démarrer ce jeudi et les dirigeants de l'Union européenne se rencontrent pour un sommet informel.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Gabriel Mokango, directeur technique de la Régie des voies fluviales, RVF. Il vient clore notre dossier thématique sur les difficultés du transport fluvial et lacustre en RDC. Il déplore l'indiscipline des armateurs qui larguent sur les eaux congolaises des embarcations qui ne répondent pas aux normes et des capitaines qui ne maîtrisent pas le code de navigation. Par ailleurs, il plaide pour l'instauration d'un fonds d'entretien des voies navigables pour que la RVF ait les moyens de sa politique. Gabriel Mokango s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Monsieur Mokango, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Alors, nous avons comptabilisé plus de 400 personnes portées disparues dans les eaux congolaises entre 2019 jusqu'à ce jour. Que faire pour arrêter cette comptabilité macabre?
Merci pour la question. Comme j'ai toujours dit, pour arrêter ces cas que nous enregistrons chaque jour, il faut que tout le monde respecte la réglementation en la matière, surtout dans le domaine de la navigation fluviale ou la piste. Au niveau de l'État, est-elle représentée par des agents qui sont des chefs de poste que nous appelons commissaires fluviaux ou commissaires lacustres? C'est eux qui doivent mettre en œuvre et faire respecter strictement toute cette réglementation. De manière à ce qu'au départ même de l'unité, avant que l'unité n'apparaisse, qu'on voit le cas de l'unité, la qualification du personnel qui doit conduire cette unité et également le chargement. Parce que généralement, on charge plus qu'il ne faut, donc on va au-delà de la capacité de l'unité, on laisse la vie des hommes entre les mains inexpertes. Donc des gens qui n'ont pas qualité pour naviguer sur nos eaux, mais également chaque unité doit avoir un certain nombre de gilets de sauvetage. Si vous embarquez 20 passagers, vous devez avoir 20 gilets de sauvetage. Mais du côté des armateurs, du moment où ils ont accepté de venir dans le secteur, ils doivent être aussi informés et appliquer ce qu'on leur demande. Et la plupart sont des embarcations de fortune, donc en bois, et ces embarcations baleinières ou canots, que sais-je moi, ont une durée de vie. Le maximum, c'est 3 ans. Donc, s'ils ne respectent pas ça pour amener à qualité, qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il faut faire, donc nous allons toujours continuer à déplorer ce cas de naufrage.
Oui, pourquoi est-ce que l'État a du mal aujourd'hui, justement, à normaliser ce secteur?
Bon, je ne dirais pas que l'État a du mal. Mais madame, si les responsabilités sont partagées, donc chaque partie doit faire en sorte de respecter ses obligations. Parce que ces embarcations ne sont pas remplit pas les conditions de ne pas le laisser à Paris.
La RVR, c'est vraiment le cantonnier des voies navigables, mais cette entreprise publique n'a pas aujourd'hui tous les moyens de sa politique. Et donc, vous avez toujours plaidé pour qu'il y ait un fonds d'entretien des voies navigables, à l'exemple du FONER, qui est le fonds d'entretien du réseau routier.
Effectivement, madame, nous sommes des cantonniers, à l'instar de l'Office des routes de l'OVD. Mais quand ils ont un fonds, le fonds d'entretien routier, le fleuve et tous ses appuyants, on suffit de voies de communication naturelle. Mais ça demande un certain nombre de travaux à exécuter pour que ça soit navigable. Mais il faut qu'il y ait un fonds permanent qui puisse prendre en charge le coût des travaux. Les travaux de balisage, on écoute. Alors, tant que l'État ne va pas disponibiliser des moyens financiers conséquents pour permettre à la RVR de faire son travail comme il s'y doit, nous allons toujours déplorer. Parce que quand vous regardez la carte du réseau de la RDC, vous comprendrez que nous avons un réseau le plus dense possible. Les routes, ça représente combien de kilomètres? Le chemin de fer, combien de kilomètres? Mais je vous donne un exemple. Le voie d'eau intérieure, nous avons plus de 15 000 kilomètres. Et c'est ce voie d'eau qui pratiquement couvre tout le territoire national. Et le sujet doit démontrer que là où le voie d'eau n'était pas navigable, on les a reliés par le chemin de fer. Mais madame, ici, il n'y a pas de moyens. On va toujours continuer à déplorer ce cas. Donc, pour le sujet à RVR, il faudra que le moyen conséquent soit mis à sa disposition. C'est à ce moment-là qu'on verra si le travail sera fait de manière optimale ou non. Mais pour le moment, ça représente des secondes. Nous allons toujours faire les chapelettes en étation, mais rien de substantiel sur le terrain ne sera visible.
Monsieur Mokango, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur technique de la Régie des voies fluviales RVF s'entretenait avec Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi Vueta, supervision de Martin Sebujangwe. Willem Lungamba était à la mise en onde, assisté de Bob Milandou, et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.